France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
C'est une étude parue dans la très sérieuse revue scientifique de Lancet qui a déclenché l'alerte. Sa conclusion est sans appel. Sans une action immédiate et efficace des gouvernements, une épidémie mondiale inédite de surpoids et d'obésité touchera 6 adultes sur 10 et un enfant et adolescent sur 3 d'ici 2050. Même si la France n'est pas le pays le plus touché, nous sommes loin de la situation en Océanie, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Il n'empêche que les chiffres sont à la hausse, puisqu'aujourd'hui, un Français sur deux est en surpoids ou en obésité. Et quand on connaît les conséquences médicales, psychologiques, sociales et financières de l'obésité, on comprend l'urgence qu'il y a à agir. Agir individuellement, certes, mais également au niveau des autorités qui doivent mesurer l'importance de mettre en place un plan de lutte contre ces affections, une mise en place à faire dès le plus jeune âge. Quelle est l'origine du surpoids et de l'obésité? Quelles en sont les conséquences? Comment aider les personnes concernées sans surtout les stigmatiser? Que penser des nouveaux médicaments et où en est la chirurgie bariatrique? Que faire au niveau gouvernemental? Faut-il faire de cette lutte une grande cause nationale? On en parle avec le professeur Sébastien Tchernikov. Sébastien Tchernikov, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous êtes professeur de nutrition à l'université Paris-Cité et co-auteur avec Jérémy Selam du livre « Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant », c'est aux éditions Solar.
Merci de votre invitation.
Vous voulez dire un petit mot sur ce livre?
Ah oui, c'est gentil. Effectivement, on a écrit avec le professeur Jérémy Selam de l'hôpital Saint-Antoine à Paris un livre basé sur des recommandations nutritionnelles menées par la Société française de rhumato. Et l'idée était de vraiment faire un état des lieux et apporter les preuves nutritionnelles les plus à jour sur les rhumatismes inflammatoires et le lien avec l'alimentation. Donc, en vente dans toutes les bonnes librairies.
Bien sûr, absolument. Et à lire, absolument. On va parler, nous, d'obésité aujourd'hui. Et je précise d'emblée que vous avez des liens d'intérêt avec les laboratoires Novo Nordisk, Eli Lilly et Boehringer Ingelheim qui produisent des molécules anti-obésité ou qui font de la recherche sur le sujet. On parlera bien sûr de ces traitements. De toute façon, tout est sur le site transparence.gouv.fr.
Exactement.
Voilà.
De façon exhaustive.
Bien sûr. On va commencer par définir ces deux termes. Surpoids et obésité, c'est un calcul basé sur ce qu'on appelle l'IMC, c'est ça?
Voilà, donc c'est un calcul qui est basé sur un indicateur ancien et qui avait surtout pour fonction au départ de permettre aux assureurs américains de déterminer le niveau de risque et donc le niveau assurantiel pour les personnes qui étaient en situation de surpoids et d'obésité. Alors comment ça se calcule? C'est très simple, c'est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré. Et donc cet indicateur, il a une vocation intéressante, une fonction intéressante, c'est qu'il permet d'associer sa valeur avec le risque de toute une série de maladies chroniques qui vont agréger autour de l'obésité plein de différentes maladies. Alors, on peut donner deux exemples pour fixer un peu les choses. Donc déjà, de manière théorique, le surpoids, c'est un indice de masse corporelle qu'on va appeler IMC tout au long de l'émission, entre 25 et 29,9 kilos par mètre carré. Et puis ensuite, on a des classes d'obésité qu'on va appeler 1, 2, 3, avec un IMC entre 30 et 34,9 pour être précis, c'est grade 1. 35 à 39,9 classe 2 et au-delà de 40, enfin 40 ou plus, la classe 3.
Concrètement, ça donne quoi?
Alors pour donner un exemple pour les auditeurs et auditrices, si par exemple vous faites 1m65 et 82 kg, vous êtes en situation d'obésité, donc au-delà de 30. Et si vous faites la même taille mais 96 kg, vous êtes au-delà de 35, qui sont les patients qui sont vus dans les centres spécialisés obésité dont on va parler.
Est-ce que ça suffit, cette mesure d'IMC, pour vraiment définir le risque? Ou par exemple, la mesure de la taille de l'abdomen, c'est important aussi?
Alors, peut-être qu'il faut avoir en tête qu'en médecine, on a des mesures qui sont des valeurs biologiques ou cliniques, qui sont des variables continues. On les appelle comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on prend l'exemple de la pression artérielle? Quand on dit à quelqu'un, vous avez 13,8 ou 14,9 ou 15,10, il faut bien définir des seuils à partir desquels on va considérer que quelqu'un est atteint de la maladie. Et c'est pareil pour l'indice de masse corporelle. On va dire au-delà de 25, vous êtes en surpoids. Au-delà de 30, vous êtes en situation d'obésité. Donc simplement, puisqu'on a beaucoup de temps dans cette émission, de faire toucher du doigt un petit peu, bien sûr, la limite théorique et la limite opérationnelle. On cherche à être opérationnel en médecine et de dire, à partir de tel stade, vous êtes considéré comme ayant cette maladie. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, au-delà de 30 kilos par mètre carré, on considère qu'une personne est en situation d'obésité. Mais bien sûr, c'était simplement pour vous faire toucher du doigt la limite un peu de ce genre de critères, puisque en réalité, ce qu'on voit dans ce domaine de la nutrition, c'est qu'il y a une courbe qu'on peut appeler en U ou en J, c'est-à-dire que plus l'indice de masse corporelle va augmenter, plus le risque des maladies dont on va parler un peu plus loin est augmenté.
D'accord.
L'obésité, c'est vraiment défini par l'OMS comme une accumulation de masse grasse, qui est donc captée par cet indicateur qu'on appelle l'indice de masse corporelle, et qui nous dit que ça a des conséquences sur l'état de santé. Alors, le tour de taille, vous l'évoquez. Le tour de taille, c'est intéressant parce que c'est une mesure toute simple qu'on peut faire avec un ruban. Voilà, avec un mètre. Et ce tour de taille, il va avoir un intérêt pour catégoriser un patient pour lui dire vous êtes dans une zone à risque ou non si le tour de taille est mesuré chez quelqu'un qui a un indice de masse corporelle entre 25 et 35. Au-delà de 35, d'accord, on considère que l'indice de masse corporelle va capter en fait toute l'information épidémiologique associée à l'augmentation du risque en santé.
Alors, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a pas mal de personnes obèses, notamment aux États-Unis, qui veulent qu'on les laisse tranquilles avec le corps qu'elles ont, ce qui est compréhensible. Le problème, c'est que l'obésité peut affecter la santé, et c'est là où les médecins interviennent. C'est quoi les conséquences médicales de l'obésité, le risque ?
Alors, vous avez tout à fait raison de souligner un point majeur. On ne va pas faire d'injonction thérapeutique, on ne va pas obliger une personne à se soigner si elle ne demande rien. Et je pense que c'est un peu ça le mouvement de réaction finalement sociétale qui a débuté aux États-Unis de personnes qui disent oui, on a un indice de masse corporelle élevé, mais laissez-nous tranquille, on n'a rien demandé.
C'est ça.
Donc c'est un point de départ important. Quelqu'un qui vient en consultation dans un cabinet médical ou en milieu hospitalier, c'est quelqu'un qui a besoin et envie de se faire soigner et donc et qui a un problème particulier. Le motif pour lequel une personne vient en consultation peut être très variable. Une personne peut venir en disant « moi j'ai une douleur du genou, ça limite ma mobilité, ça limite ma qualité de vie ». Quelqu'un peut venir en disant « voilà, j'ai un rhumatisme inflammatoire » pour faire un lien avec ce que vous évoqué au début de l'émission, et ce rhumatisme inflammatoire, il est aggravé en termes de douleur parce que j'ai un indice de masse corporelle à 40, et d'ailleurs, mon rhumatologue m'a dit qu'à 40 d'indice de masse corporelle, le traitement à la dose habituelle va moins bien marcher, donc j'aurai plus de douleur que les autres. Donc, en fait, ce motif de consultation, il est indispensable, et c'est vraiment la première question qu'on va poser au patient qui vient nous voir en consultation. Pourquoi vous venez me voir ? Je viens vous voir parce que j'ai tel problème de santé.
Alors, c'est vrai qu'il y a un surrisque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer. Mais il y a un risque qu'on ne peut pas négliger, ce qui est vraiment problématique. En tout cas, on s'est raconté largement en France, les personnes obèses et notamment les femmes subissent une stigmatisation de la part de certains soignants, il faut le dire, ce qui peut entraîner des retards de consultation avec des vraies conséquences.
Oui, alors, ce qui est vraiment décrit dans la littérature scientifique, notamment par l'épidémiologie, c'est de dire que quand l'indice de masse corporelle augmente, on peut prendre l'exemple du dépistage des cancers. On sait que dans les campagnes de dépistage, notamment pour les cancers gynécologiques, les personnes en situation d'obésité, donc les femmes en situation d'obésité sévère, ont 20 à 30% de chances en moins d'avoir eu un frottis cervico-vaginal ou une mammographie dans l'année. Ça peut s'expliquer de différentes façons. On sait d'une manière générale, qu'en santé publique, les populations les plus précaires accèdent moins aux campagnes de dépistage, sont moins sensibles aux messages de prévention en santé, que ce soit sur le tabac, l'alcool, la consommation de fruits et légumes, donc tous les messages nutritionnels. Mais c'est vrai aussi sur le dépistage des cancers. Or, on sait que l'obésité augmente le risque de toute une série de cancers, et notamment les cancers qu'on appelle hormonodépendants, c'est-à-dire cancer de l'endomètre, cancer colorectal.
L'endomètre, c'est le corps de l'utérus.
Oui, pardon, cancer du corps de l'utérus, et le cancer du sein après la ménopause. La conséquence de ça, puisque le risque, pour des raisons hormonales, de ces cancers est augmenté chez les personnes en situation d'obésité, et que le dépistage est plus tardif pour ces patients, eh bien la mortalité par cancer est plus élevée chez les patientes en situation d'obésité sévère. Ça peut être lié, effectivement, à des messages stigmatisants que ces femmes ont pu recevoir lors de consultations. Et pour rendre les choses un peu positives, parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps un peu négatif, voilà, on sait par exemple que certaines études qui ont été menées à la fois auprès de soignants, mais aussi auprès de patients, disent, bizarrement, en fait, les patients disent, moi, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet du poids en consultation. Et les médecins, dans ces études, répondent au questionnaire en disant, mais de toute façon, le patient ne veut pas que je lui parle de son poids. Donc, donc vous voyez que c'est intéressant parce qu'en fait, le sujet n'est pas qu'on ne parle pas du poids, le sujet, c'est la façon dont on aborde la question du poids en consultation. Les patients, en fait, en majorité, ont envie qu'on leur pose des questions sur leur poids et ont envie qu'on leur propose des solutions. Et peut-être que c'est simplement lié à la façon d'aborder et d'être peut-être un peu plus bienveillant, plus empathique dans la façon d'aborder le sujet du poids plutôt que de dire vous voyez pas dans quel état vous vous mettez, vous êtes trop gros.
Voilà, effectivement. Et aujourd'hui, on en est donc à un Français sur deux qui est en surpoids, en obésité. Comment on en est arrivé à de tels chiffres ? On en parle tout de suite. Formidable. Carnet de santé donc consacré au surpoids et à l'obésité à l'origine d'1,3 million décès dans le monde tous les ans. On en parle avec le professeur Sébastien Tchernikov qui est professeur de nutrition. Alors c'est un phénomène complexe l'obésité. Ce qu'on aimerait comprendre c'est pourquoi il y a une telle augmentation et pourquoi ça risque de continuer à augmenter. Il y a l'environnement qui joue. Qu'est-ce qui dans notre environnement peut expliquer cette hausse de fréquence ?
Alors, si on veut faire simple, il faut commencer par faire simple.
Bien sûr.
Alors, on va faire simple. L'obésité, c'est quand même la conséquence d'un déséquilibre de la balance alimentaire, de la balance énergétique, pardon. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'un côté, soit on ne fait pas assez d'activité physique ou on est trop dans des situations de sédentarité, ce qui est un peu différent, soit on a des apports alimentaires qui sont trop importants par rapport à nos besoins. Ce n'est pas trop important en général, c'est par rapport à nos besoins qui peuvent être estimés ou mesurés par des techniques qu'on peut faire à l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et bien sûr, ça peut se cumuler, on peut être trop sédentaire et avoir des apports alimentaires trop importants par rapport à ses besoins.
Et c'est un peu ce qui se passe de plus en plus.
C'est ce qui se passe de plus en plus parce que quand on dit environnement, l'environnement, ça veut dire aussi, pour prendre un terme un peu à la québécoise, c'est la marchabilité de l'environnement. Est-ce qu'autour de notre immeuble, autour de notre lieu de vie, on a la capacité de marcher, de se déplacer à vélo ? Il y a plein de municipalités qui font des efforts pour améliorer ça. Mais c'est aussi l'offre alimentaire, la qualité de l'alimentation, la quantité de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles. Et il faut quand même pas... On va parler des polluants et tout ça. Mais quand même, il faut quand même partir du point de départ et du socle.
Et alors justement, l'alimentation, est-ce que vraiment la malbouffe, l'alimentation ultra transformée, les additifs sont vraiment en cause dans cette hausse de l'obésité ?
Alors, les choses importantes, c'est la qualité de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité et la quantité ? C'est la densité énergétique des repas. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire la quantité de calories qu'il y a pour un repas ou un plat préparé. Donc oui, la densité énergétique des repas, elle a augmenté. Donc, c'est-à-dire des aliments qui sont plus riches en matière grasse, mais aussi la taille des portions a augmenté. Et d'ailleurs, quand vous faites, pour prendre un exemple, vous faites une pizza à la maison, vous achetez pas, si vous êtes quatre, vous faites pas quatre pizzas, vous faites une pizza et vous la partagez avec d'autres choses autour. Quand vous allez au restaurant, vous prenez quatre pizzas, c'est-à-dire une pizza chacun. Donc, vous voyez que les comportements peuvent s'adapter. Et donc, si la taille des portions est plus importante, eh bien forcément, vous consommez plus de calories. Ensuite, il y a le sujet de la qualité nutritionnelle et des aliments ultra transformés qui sont aujourd'hui présents sur le marché en énorme quantité. Et l'exposition à ces aliments, l'exposition à des fast-foods, l'exposition à des boissons sucrées a augmenté. Et pour pouvoir améliorer ça, on peut avoir des outils qui sont des outils populationnels et qui sont forcément coordonnés au niveau national par notamment le ministère de la Santé. On reparlera peut-être du Nutri-Score.
Bien sûr.
Donc ça, c'est informer et permettre notamment aux populations qui ont le moins accès à l'information des messages de santé publique simples, compréhensibles, instantanément. Et puis ensuite, il y a les choix individuels qu'on va faire. Et ces choix individuels, dans l'achat, tout simplement, ils vont dépendre, par exemple, de votre niveau de précarité, de votre niveau d'éducation.
Ce que j'allais dire, il faut bien dire honnêtement que la malbouffe, c'est pas cher, que manger des fruits, des légumes, si possible bio, comme on le dit, c'est quand même très cher. Ça explique en partie l'inégalité sociale de l'obésité dans nos pays, en tout cas.
Ouais, ce qu'on peut dire peut-être en préambule, c'est que les inégalités sociales se creusent en France et elles vont avoir notamment pour conséquence d'augmenter les inégalités, l'inégalité nutritionnelle qui elle-même aggrave les inégalités sociales de santé. Donc, effectivement, ce qui a été analysé dans les enquêtes sociologiques ou épidémiologiques, c'est que l'alimentation, c'est fréquemment une variable d'ajustement versus le logement, par exemple, ou les transports. Et on comprend très bien, évidemment, on a besoin d'un toit, on a besoin de se déplacer pour aller sur son lieu de travail. Et ça va être prioritaire par rapport à l'alimentation. Et les conséquences, c'est que bien un foyer qui est en situation de précarité ou d'insécurité alimentaire, eh bien, va forcément diminuer ses apports en fruits et légumes, donc diminuer en fait ses apports en vitamines, minéraux et fibres. Et ça va avoir des conséquences directes sur son état de santé, directement sur le risque cardiovasculaire, directement sur le risque de cancer et bien sûr augmenter le risque d'obésité. Puisqu'on va se diriger vers des aliments qui sont les plus riches en aliments denses en calories et donc les moins chers.
Clairement, une action des autorités est indispensable, mais d'abord, on va voir comment on prend en charge au mieux individuellement. C'est important, les personnes en surpoids ou obèses.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
Lutter au plan national contre l'épidémie d'obésité qui nous menace, c'est indispensable, mais il faut aussi assurer à chaque personne en surpoids ou obèse dans notre pays une prise en charge efficace et adaptée. On en parle dans Carnet de Santé avec le professeur Sébastien Tchernikov, chef du service de nutrition de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin avec à la réalisation Thomas Jost, à la technique Félix Delacour et à la vidéo Jordan Fuentes. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vous ai interrompu, je l'ai vu.
Non, mais bon, je peux...
Dites-moi.
Je peux parler, vous avez raison de me cadrer.
Vous n'êtes pas là pour ça, mais...
donc, effectivement, le point que je voulais aborder, oui. C'est qu'on a parlé des conséquences nutritionnelles et de la précarité alimentaire. Mmh. Je ne sais pas si les auditeurs, en fait, savent que les bénéficiaires de l'aide alimentaire en France, c'est probablement 2 à 4 millions de personnes. Ça, c'est des sources de l'INSEE. Oui. Donc, c'est quand même un vrai sujet et un sujet qui ne peut pas être réglé par les effecteurs de soins que sont les médecins, les diététiciens, les enseignants en activité physique adaptée, les psychologues ou tous les soignants qui prennent en charge ces patients. Nous, on est vraiment au bout de ce tuyau de l'offre de soins. On est obligé finalement de travailler sur des plans de santé publique avec une coordination nationale pour réussir à combattre cette épidémie d'obésité que vous avez évoquée. On n'a peut-être pas donné les chiffres, mais l'obésité, c'est 18% de la population en France, d'après les derniers chiffres. Et si on parle d'un IMC au-delà de 35, au-delà de 40, c'est probablement 6% de la population en France. D'accord. Donc ça fait quand même plusieurs millions de personnes.
La prise en charge individuelle, comment ça se passe ? Qui prend en charge l'obésité ? Est-ce que c'est le médecin généraliste ? C'est un médecin nutritionniste ? C'est un centre spécialisé ? C'est quoi ce parcours de soins ?
Alors, le parcours de soins, et en fait c'est le point absolument clé en termes de santé publique, c'est le bon parcours pour le bon patient et finalement le bon traitement adapté au bon patient. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia que je...
Non, c'était déjà assez clair.
ce que je viens de dire à l'instant, eh bien finalement, c'est organiser, graduer l'accès aux soins, graduer, organiser les parcours de soins. Des personnes en surpoids, elles peuvent, selon la haute autorité de santé, être prise en charge par le médecin traitant. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est les médecins endocrino-diabéto-nutritionnistes de ville, donc qui sont la spécialité à laquelle j'appartiens, la spécialité médicale. Ces enseignants en activité... ces médecins spécialistes de ville, ça va être le niveau 2. Mm-hmm. Et puis des centres spécialisés de niveau 2. Et puis ensuite, le niveau 3, c'est ce qu'on va appeler les centres spécialisés obésité, qui ont été labellisés depuis 2012 par le ministère de la Santé, dans le cadre d'un grand plan national de santé publique qui était le plan de lutte contre l'obésité.
Il y en a assez ?
Alors, il y en a 37 en France. Mais en fait, on n'est bien sûr pas assez de médecins nutritionnistes aujourd'hui, puisque les gens de ma spécialité vont aussi prendre en charge les maladies endocriniennes et le diabète. Et c'est un. Je profite de l'antenne pour faire un appel au ministre de la Santé pour augmenter le nombre d'internes dans notre filière. Ça fera rire mes collègues qui savent que j'en parle à chaque fois. Parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus d'internes dans la spécialité en nutrition, qui est aujourd'hui clairement insuffisante sur le territoire, étant donné la prévalence des autres maladies nutritionnelles. On peut prendre l'exemple de la dénutrition des personnes âgées, de l'anorexie mentale, du diabète de type 1, de type 2, des pathologies endocriniennes. Donc on a vraiment besoin en fait, d'avoir ces médecins, que ce soit en ville ou en milieu hospitalier, universitaire ou non, qui vont permettre de prendre en charge dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires. Et c'est là le point clé. Numéro 2, ces équipes pluridisciplinaires, j'en profite pour dire bonjour à toute mon équipe à l'hôpital Pompidou.
Faites passer tous vos messages, allez-y, je vous en prie.
pour prendre en charge les patients. Donc en fait, cette organisation des soins, ce maillage, il va au final organiser l'accès aux soins des patients qui vont, suivant leur état de santé, une obésité sévère et compliquée avec un IMC au-delà de 35, vont aller vers les centres spécialisés obésité et vont avoir recours à des traitements différents de ce qui peut être possible pour des patients qui sont simplement avec un surpoids.
D'accord.
On peut aussi faire mention des soins de médicaux et de réadaptation, les SMR, avec lesquels on travaille beaucoup, puisque dans ces centres, les patients vont avoir des séjours de 1, 2, 3 semaines ou plus, dans lesquels on va énormément...
les accompagner pour leur nouvelle vie, en fait, qu'ils doivent arriver à mettre en place, notamment l'activité physique très compliquée pour une personne obèse. Et tout ça, ça doit se faire de manière contrôlée, encadrée.
Avec du temps
voilà,
et autour de l'éducation thérapeutique. Et ça, ça prend du temps.
Donc on a bien compris que la prise en charge, ça allait être évidemment l'alimentation, l'activité. Mais il y a des médicaments. Alors, longtemps, on le sait, il y a eu des coupe-faim, différents coupe-faim, notamment dont certains ont défrayé la chronique. Depuis quelques années, on a des nouveaux médicaments. Quelle est leur efficacité aujourd'hui? Leurs effets secondaires, comment on en est où?
Alors, le point très important, vous avez rappelé que ces médicaments, d'autres classes de médicaments ont défrayé la chronique. Donc, point important, la Haute Autorité de Santé décrit qui peut avoir accès ou non à ces médicaments. Alors, ce à quoi vous faites référence, c'est cette nouvelle classe de molécules qu'on appelle des entérohormones, dérivées d'entérohormones, ou incrétine ou incrétinomimétique, c'est tous les petits noms.
Oh, pouvez.
ou agoniste du récepteur au GLP1. Ouais. Voilà, on aura fait le tour. Donc ces molécules, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles miment l'effet d'hormones qu'on produit nous-mêmes dans le tube digestif et qui vont interagir, envoyer des signaux pour sécréter de l'insuline, agir sur le cerveau et finalement nous aider à diminuer nos apports alimentaires. Alors, il faut tout de même rappeler que ces molécules, elles ont d'abord été développées en diabétologie et qu'elles sont aujourd'hui prescrites à large volume et remboursées dans ce cadre-là pour les patients qui ont un diabète. Voilà. Dans le cadre de l'obésité, aujourd'hui, ces molécules ne sont pas prises en charge. Et elles ont un cadre de prescription, une autorisation de mise sur le marché en France, en Europe et dans le monde.
Et des critères qui sont stricts. Hein.
Des critères stricts qui sont un petit peu différents de ce qu'aujourd'hui la Haute Autorité de Santé nous autorise à faire, puisque aujourd'hui, le cadre, c'est un indice de masse corporelle au-delà de 35 pour les 3 molécules qui existent.
Alors, juste vous dites effectivement qu'elles ne sont pas prises en charge. Juste un petit point, même si on est tous d'accord pour dire que c'est une maladie, l'obésité n'est toujours pas reconnue comme une affection de longue durée. Donc, il y a des tas de choses qui restent à la charge du patient.
Alors, c'est un point absolument majeur parce que vous avez...
Et les associations se battent pour que ça évolue, ça.
Voilà, exactement. Alors, vous avez souligné que finalement, ces molécules, aujourd'hui, n'ont pas de prise en charge et elles sont plutôt onéreuses. Et vous avez aussi peut-être mentionné au début de l'émission que l'obésité est une maladie chronique qui concerne en fait 18% de la population, mais en fait c'est un chiffre global. Mmh. Il y a un écart énorme qui peut aller de l'ordre de 7% pour les foyers qui ont les revenus les plus aisés à 28% pour ceux qui ont des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois pour l'ensemble du foyer. Donc il y a un écart de 4 au sein de la population, et c'est bien sûr de manière préférentielle ces patients qu'on va voir en milieu hospitalier. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces médicaments qui n'ont pas de prise en charge et qui sont des traitements qui vont devoir être pris au long cours exposent finalement nos patients à un reste à charge important et peut-être un renoncement aux soins dans d'autres domaines de la santé. Pourtant, aujourd'hui, et je pense que ça, c'est un mot important dans la discussion, il y a des plans de suivi de la sécurité de ces molécules qui sont organisées par les autorités de santé. Et ces plans de suivi et ces plans de risque sont indispensables. Aujourd'hui, ces molécules tiennent plutôt la route en termes de bénéfice-risque. Et donc, je dis aujourd'hui, puisqu'on surveille et on suit, nous, en tant que médecins, de manière très attentive, la littérature scientifique, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, et peut-être que des risques vont émerger. Mais aujourd'hui, le niveau de sécurité de ces molécules est plutôt adapté.
On espère vraiment que ça évoluera. À part les médicaments, évidemment, il y a la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui, les techniques les plus pratiquées, c'est ce qu'on appelle la sleeve et
le bypass.
Et le bypass. On va écouter justement un témoignage, celui de Ghislaine, qui raconte son histoire au micro de France Inter. Le téléphone sonne, écoutez.
J'ai fait en 2014 une sleeve après des grossesses tardives et une petite génétique familiale quand même de gens plutôt ronds. Mais à 50 et quelques, il y a le diabète qui s'est mis en place. Donc un peu au pied du mur. J'ai toujours fait du sport, malgré tout. Et à l'heure actuelle, j'ai perdu 38 kilos. Après la stabilisation et l'arrivée de la ménopause, il y a eu une reprise de 3 kilos, mais pas plus. Donc voilà, à l'heure actuelle, je fais 5 heures de sport par semaine, du kitesurf le week-end quand il y a du vent. Ouais. Et j'ai 62 ans, et voilà, c'est formidable.
Ah, formidable. Globalement, à long terme, les résultats sont bons, si les indications avaient été bien posées.
Oui, alors en fait, ni la chirurgie bariatrique, ni les médicaments ne sont magiques.
C'est ça, il n'y a pas de solution miracle.
Il n'y a pas aucune solution miracle. Donc ça, c'est peut-être la grande déception du jour, mais on est samedi, il y a du soleil, donc on peut se permettre.
Ouais, pas partout, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, pas partout, pour une fois un peu à Paris. C'est pas une solution magique, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique, et comme toutes les maladies chroniques, il y a des phases de succès, il y a des phases d'échec, il y a des phases de rebond de poids. Donc aujourd'hui, c'était thérapeutiques, que ce soit les médicaments ou la chirurgie de l'obésité, elles nous permettent de faire diminuer le niveau de risque des patients avec une efficacité redoutable aujourd'hui, de grande efficacité, si et seulement si, j'insiste là-dessus, les patients sont inclus dans un parcours de soins coordonné. Et ça, c'est complètement cadré par la Haute Autorité de Santé pour les médicaments, pour la chirurgie. Et ce parcours de soins, il implique des équipes pluridisciplinaires, il implique un suivi à vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un patient qui, aujourd'hui, a accès à une chirurgie de l'obésité, par exemple, la sleeve, c'est 20-25% de perte de poids du poids de départ. Le bypass, c'est 30-35%. Mais donc, ça n'est pas 100%. C'est une aide majeure pour permettre au patient d'aller vers un autre niveau de risque.
Il vous reste à peine une minute pour parler de recherche.
Recherche. Alors la recherche, c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, il y a un réseau de recherche qui s'appelle FORCE, qui est co-coordonné par le professeur Emmanuel Dis aux Hospices Civils de Lyon et moi-même à Paris. C'est un réseau labellisé par FCRIN et il s'appuie sur les 37 centres spécialisés obésité en France qui vont donc vouloir développer des protocoles, soit académiques, soit industriels, pour développer la recherche sur l'obésité. Et je pense que c'est vraiment absolument important que la France continue à être à un haut niveau en termes de recherche. Et on a des choses à dire dans le domaine. Deuxième point important, les plans de santé publique. Donc on attend avec une très grande impatience ce que va nous dire le ministre de la Santé, qui doit relancer donc cette feuille de route obésité, qui va parler de prévention, d'information, d'éducation, mais aussi d'innovation thérapeutique. Et les associations de patients sont au premier plan pour ça, pour faire reconnaître l'obésité comme une maladie chronique. Et on l'espère, améliorer l'accès aux soins. Je vous remercie.
Vous avez respecté votre temps, donc je me permets de rappeler votre livre, du coup, écrit avec Jérémy Selam, Arthrose, arthrite, je me soigne en mangeant, c'est chez Solar. Merci beaucoup.
Merci.